podcast@buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Véronique Jans.
Bonjour.
Alors tragédienne pour la troisième et dernière fois, entre guillemets, avec la sortie du, du troisième volume d'une série de ce cycle.
Oui, c'était la blague hein, au départ, le numéro 3, on disait ah ouais, puis en fait voilà, c'est devenu une réalité. Mais quand on a commencé cette histoire, on n'était pas sûr du tout de faire un deuxième et encore moins un troisième, et ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est décidé au fur et à mesure des succès, si je puis dire, de chaque album, donc... Ouais, je suis ravie, évidemment.
Alors celui-ci est un peu particulier par rapport au répertoire abordé,
oui.
C'est aussi bien pour le répertoire par rapport à, effectivement, des compositeurs parfois peu abordés, voire carrément ignorés, voire oubliés,
ouais.
Et même pour vous, j'imagine, par rapport à certaines...
Oui, c'est vrai que on sort un peu de nos sentiers battus, si je puis dire, autant pour Christophe Rousset, pour l'orchestre, que pour moi. C'est chanter Berlioz, bon, c'est vrai que... J'ai plus l'habitude de le faire que Christophe, de le diriger, Verdi, Saint-Saëns, des choses comme ça. C'était un peu se lancer dans des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais tout le monde était partant, tout le monde avait envie. Les musiciens ont fait des pieds et des mains pour trouver les instruments qui correspondaient à l'époque exacte de chaque ère et tout. Enfin, tout le monde était en effervescence et tout le monde était très excité par ce projet. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de, en tout cas pour les talents lyriques, de jouer du Verdi et du Berlioz, quoi. Donc ils étaient ravis aussi. Et la tournée qu'on a fait après, et qu'on va continuer plus tard, il y a vraiment une ambiance vachement sympa. Et tous les musiciens sont heureux d'être là, je crois. Et ça, on peut pas le dire dans tous les concerts et dans toutes les tournées. Tout le monde est content et tout le monde a envie de faire bien. Et il y a une espèce de... D'effervescence, d'énergie commune qui est très sympa. Ouais.
Quelle valeur, à titre personnel, vous donnez à cette période, Gluck jusqu'à la fin, enfin 18-19e, au niveau vocal et à ce répertoire-là? Comment vous le voyez dans l'évolution, à titre personnel de la...
En tout cas, pour ma voix, je vois que c'est vraiment de plus en plus confortable et ça me donne de plus en plus envie d'aller dans ce genre de... dans cette direction-là, en tout cas, dans ce genre de répertoire. C'est vrai que j'ai chanté pendant des années de la musique baroque. Et ma voix... J'étais très jeune, ma voix s'est développée, ma voix a changé, j'ai vieilli, voilà, et je me sens beaucoup moins confortable dans cette musique. Je l'aime toujours autant, mais je sens que j'ai besoin d'aller vers des choses plus larges. Mozart a été une étape, Mozart restera quand même un port d'attache, et Mozart restera toujours le centre de ma carrière, parce que je pense que c'est vraiment là que je me sens le mieux. Mais j'ai envie d'aller vers des choses plus tardives, et chanter Verdi, pour moi, ça me fait un bien fou. Chanter Berlioz, chanter des choses... ça ouvre, ça développe, ça fait marcher la machine à 150%, et c'est beaucoup de plaisir.
Est-ce que justement, quand on aborde des répertoires dans lesquels on ne s'était jamais engagé, si on met ça en parallèle, par exemple, avec, je crois que vous allez rejouer Don Giovanni l'année prochaine à Bastille, donc quelque chose, quand un vêtement, quelque chose qu'on est habitué à mettre, qu'on fait évoluer évidemment, mais la mise en parallèle entre vraiment des choses, des terres presque vierges pour votre voix, et des choses au contraire qu'on aime visiter en permanence, retravailler, etc. Comment l'un agit sur l'autre?
Mais vous savez, quand ça fait maintenant bien 15 ans que je chante Don Giovanni, et c'est vrai que le corps a une mémoire incroyable, et c'est très difficile de se débarrasser de tout un tas de défauts qu'on avait il y a 15 ans et qu'on n'a plus maintenant. Alors que quand on chante des choses, comme vous disiez, de la musique qui est vierge, pour moi, de chanter cet air de Verdi, où j'ai aucune mauvaise habitude, aucune... Voilà, tout d'un coup, c'est la liberté, et ça paraît facile, Non, mais...
Parce que j'allais vous demander, est-ce qu'il y a quand même une, il y a une difficulté par exemple, particulière sur ces...
C'est juste une question de... Parce que la voix est la même. Quand on chante du Lully ou qu'on chante du Verdi, la voix est la même. C'est juste la façon de l'utiliser, l'embouchure et la manière dont fonctionne la machine du souffle qui est quand vous chantez du Lully, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de souffle. Vous avez besoin d'utiliser plus une grammaire vocale, beaucoup qui se passe dans la gorge. Alors que quand vous chantez du Verdi, il faut que le souffle roule, que la machine fonctionne. Et c'est ça qui est très nouveau pour moi. J'ai pas l'habitude de chanter, comme je disais, à 150% et avec une voix entière et pleine.
Et puis des personnages en plus.
Oui, qui sont dramatiques.
Fougueux,
et voilà,
dramatiques, etc.
Ah, j'adore, ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai que j'ai chanté les petites bergères, ouais. Pendant des années, les nymphes, les machins. J'étais ravie à cette époque-là, je pouvais rien faire d'autre de toute façon parce que ma voix a été ciblée pour ça et que j'étais incapable de faire autre chose à ce moment-là. Maintenant, j'ai changé et j'ai envie d'autre chose et ma voix suit. Et pourquoi pas m'aventurer dans ce genre de choses si tant que je suis pas ridicule, ça va, il faudra me le dire si je deviens ridicule.
Ça va pour l'instant, il n'y a pas de souci. Comment justement sur cet aspect de fougueux, de personnage sur l'aspect, j'allais dire, jeu, l'aspect théâtral presque de l'opéra, du chant, comment vous avez évolué tout au long de votre carrière? Comment vous avez abordé cet aspect? Parce que c'est vrai, quand on s'engage dans une carrière comme ça, qui demande une sorte de... c'est presque comme un sportif de compétition, j'allais dire. On entre en religion, puis en même temps physiquement, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très... très très particulier qui demande énormément et à côté de cela voilà il y a aussi cet aspect de jeu, comment on intègre la virtuosité vocale et la partie plus théâtrale.
Ben, là c'est vrai que
c'est venu naturellement chez vous, enfin rapidement, comment ça s'est passé?
Oui, en fait ça fait trois volumes qu'on enregistre avec que des tragédiennes, que des trucs bien lourds, bien glauques et bien voilà, donc voilà, quand on chante ça, effectivement, il faut rentrer dedans à fond, sinon c'est pas crédible, il faut rentrer dans tous ces personnages, mais une fois que le concert est fini, on dit, bon, allez, basta, là, parce que sinon, on devient fou, quoi, on est toujours tiré vers le bas, en plus, à l'opéra, je chante des Iphigénies, des Alcestes, enfin, que des trucs très drôles, quoi, même si on est à fond quand on chante tous ces personnages, il faut, je pense, sinon, encore une fois, on n'est pas crédible, il faut réussir à enlever le manteau, là, quand on sort de scène, sinon on devient fou.
C'est facile?
Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est vrai que toute la préparation de ce disque, tout l'enregistrement, tout le choix des partitions, tout, c'est vrai que j'ai baigné là-dedans pendant pas mal de mois. Et voilà, et ça pèse un peu sur moi. Alors on parle que de mourir, de sacrifice, de mon fils va être tué. Enfin voilà, que des trucs glauques, quoi. Et j'ai envie de chanter des choses un peu plus légères. Là, je vous cache pas qu'à la fin de l'année, je vais faire un concert de gala à l'Opéra de Lyon avec des Strauss et des choses plus... Et oui, ça va me faire du bien, je crois.
C'est obligatoire, d'une certaine manière, la diversité du répertoire?
Non, c'est pas obligatoire, je crois pas.
Enfin, à votre niveau, est-ce que c'est un peu une sorte d'énergie, de carburant? C'est un peu pour...
Non, c'est juste que c'est pas mon caractère d'être tragique et dramatique tout le temps, quoi. Peut-être que ça correspond très bien à certaines chanteuses qui ont le moral comme ça, un peu vers le bas. Moi, je peux faire ça, mais je peux aussi faire des choses plus optimistes, plus... Voilà, et dans la vie, je crois pas être complètement sordide tout le temps. Moi, j'ai besoin d'un peu des deux, pour équilibrer, tout simplement.
Quand vous abordez des répertoires que vous n'abordiez pas spécialement avant, comme c'est le cas sur certaines partitions de ce troisième volume, vous êtes comment? C'est-à-dire que ce que vous avez tendance à vous documenter, etc., en apprendre le plus, ou vous êtes essentiellement, j'imagine, avec la partition, évidemment, et les musiciens et le chef avec lequel vous avez travaillé, les talents lyriques et Christophe Roussel, qu'on n'a pas encore cité, pour ce cycle, ou comment se passe l'aspect de préparation?
Mais déjà... On avait, en fait, avant d'enregistrer, on avait un paquet de partitions comme ça. Il a fallu faire un tri drastique, quoi. Il y avait tellement de musique, tellement de choses. Donc, déjà, c'est en fonction de ma vocalité, de ma voix. C'est moi qui choisis la tessiture, l'ambitus. Et ensuite, Christophe Rousset passe derrière. Il dit, non, là, l'orchestre est trop chargé. Là, il y a trop d'instruments. Là, il y a des histoires de budget aussi. Il y a tout un tas de raisons. Mais moi, quand je commence à travailler vraiment... D'ailleurs, j'essaye pas d'écouter quoi que ce soit parce qu'en général, c'est des choses qui sont peu chantées, comme on a dit tout à l'heure, des raretés, des choses comme ça. Mais le plus important pour moi, c'est de comprendre le contexte et qu'est-ce qui se passe quand cette femme chante, qu'est-ce qu'elle dit, pourquoi elle le dit, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, j'essaie de me documenter sur l'histoire, savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on raconte et savoir quel est le drame. Voilà. Ensuite, on ajoute la musique, on trouve des couleurs avec l'orchestre selon ce qu'on raconte. Mais je pense que c'est très très important de savoir ce qu'on raconte, où on va, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça éclaircit beaucoup de choses, si je puis dire, et tout devient évident, entre guillemets, même pour l'orchestre. J'aimais bien leur expliquer à chaque fois. En plus, les gens des talents lyriques, maintenant, je les connais bien et je sais qu'ils ont besoin, ça les aide beaucoup, de savoir juste qu'est-ce qui se passe, pourquoi on raconte ça. Et avant de travailler chaque air, on passait 5 minutes à expliquer le contexte. Et ça me paraît très, très, très important.
Justement, le travail avec Christophe Roussel et Talents Lyriques, la spécificité, bon, vous avez travaillé avec beaucoup de grands noms, dont on parlera peut-être après, sur ce travail justement avec, au fil des années avec lui et son ensemble, quelle particularité. J'imagine que le travail amène la complicité, donc une facilité d'abord, surtout quand on est dans des partitions, dans des répertoires un peu vierge, un peu particulier, même pour lui aussi, j'imagine.
Ouais. Mais c'est vrai qu'avec Christophe, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis Attis, on se connaît depuis les Arflots. Mmh. Mais à l'époque, il n'avait pas encore son ensemble. Et j'étais une jeune chanteuse et il était un jeune claveciniste. Après, on s'est perdu de vue pendant pas mal de temps parce que la vie a voulu que ça soit comme ça. Il a créé son ensemble et pendant longtemps, je n'ai pas chanté avec lui. Mais maintenant, depuis ce premier volume, on a effectivement... On se connaît mieux, on s'apprécie beaucoup et surtout je me sens absolument en confiance avec lui et je sens qu'il connaît très très bien ma voix maintenant, il sait très bien ce que je peux faire, il entend les choses à l'avance, il dit non ça c'est pas pour toi, ça tu peux le faire. Et ça il y a très très peu de chefs dont je peux dire ça, il n'y a aucun chef qui me connaît aussi bien que lui. Et il est juste désespéré que j'ai plus envie de chanter de la musique baroque maintenant et que j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Mais on se connaît bien et c'est, je pense que c'est très très important, surtout quand on fait des disques. Il faut être en confiance, il faut oser dire les choses, et c'est difficile. C'est toujours difficile. Ça devrait être comme ça tout le temps, en fait, quand vous arrivez à Berlin pour chanter les Nuits d'été avec un chef que vous connaissez pas, avec un orchestre que vous... C'est ce qui m'attend là dans quelques semaines. Voilà, c'est toujours un peu délicat, un peu difficile, mais c'est notre vie. On fait beaucoup ça. Alors quand on a la chance de faire un troisième volume avec le même chef et le même orchestre, c'est vraiment du luxe et on apprécie beaucoup, autant de son côté que du mien, je crois.
Justement, vous avez cité le Hâtis, qui a été le point de départ de plein de gens, qui effectivement en plus ont eu des parcours un peu différents. Rétrospectivement, quand vous repensez à cette période, à ce que ça représentait pour vous, comment vous le regardez comme, avec aussi votre spécificité, comme vous l'avez dit, voilà, j'ai beaucoup chanté de baroque, etc., pour finalement après m'en détacher. Là, vous en parlez encore, genre, oui, il voudrait que je revienne, mais bon...
Non, mais Hâtis, effectivement, ça a été le début de tout pour moi. Moi, je ne savais même pas ce que c'était que la musique baroque, quoi. Je suis arrivée là, il y avait tout le monde, il y avait Marc Minkowski dans l'orchestre, Christophe, Bill qui dirigeait, Hervé Niquet, Hugo Rennes, enfin, c'était incroyable. Il y a eu une concentration de gens à ce moment-là, et ensuite l'engouement du gouvernement français, du ministère de la Culture, pour redécouvrir toute cette musique. Enfin, ça a été vraiment... À l'époque, quand on disait qu'on était une chanteuse baroque, on était soit une chanteuse qui n'avait pas de voix, soit une chanteuse qui chantait faux, exactement pour les violonistes. C'était pareil. C'était ceux qui ne savaient pas jouer autre chose. Enfin, il y avait vraiment un dénigrement de cette musique et des gens qui la faisaient, qui était vraiment très désagréable. Je peux en parler, puisque j'étais au Conservatoire de Paris à l'époque, et j'étais à la fois en classe d'art lyrique et en classe de musique baroque avec William Christie, et je sentais très bien qu'on nous prenait vraiment pour des petites choses. Et voilà, et maintenant, vous ouvrez n'importe quelle radio, et on entend du baroque, et on en fait dans les grandes maisons, on en fait même autre métropolitaine à New York. Et ça, c'est bien, ça a mis du temps, et je suis contente de cette reconnaissance de cette musique. Hâtis a été vraiment un souvenir incroyable, et toutes ces tournées qu'on a faites, et tous ces spectacles, et avec tout... C'était cool à ce moment-là, j'étais dans un chœur, moins de responsabilités, on voyageait, on se baladait, on chantait le soir, et voilà, ça faisait aucune différence. Maintenant, c'est très différent, je suis souvent seule, quand je dois chanter le soir, il est hors de question que j'aille me balader, que j'aille visiter la ville. Voilà, c'est une autre vie, c'est très différent, et c'est vrai que j'ai un peu la nostalgie de cette époque, mais en même temps... Je suis très heureux de ce qui m'arrive maintenant, et il faudrait vraiment être stupide pour dire que je voudrais revenir en arrière. Non, sûrement pas.
Et à cette époque, musicalement, vous étiez qui ? Est-ce que vous aviez conscience de ce vers quoi vous vouliez aller ?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que vous vouliez ? Qu'est-ce que vous ne vouliez pas ?
Non, je ne savais rien de ce que je voulais. J'étais embarquée là-dedans. Moi, je passais mon bac à l'époque. Je faisais mes études de langue à l'université, à la Sorbonne et tout. Enfin, voilà, j'étais pas du tout partie dans ce trip-là. C'est juste que ça m'est tombé dessus comme ça. C'est vrai que je chantais dans des chorales d'enfants pendant longtemps, que je chantais au conservatoire. J'aimais ça. C'était vraiment un plaisir, un très grand plaisir de chanter. Mais de me retrouver professionnelle du jour au lendemain, et avec la première fois que je mettais les pieds sur scène, c'était dans cet Hâtis. Enfin, c'était incroyable de me retrouver là. Et d'ailleurs, quand William Christie avait fait les auditions pour le chœur, je me souviens très bien, j'avais dit, ah non, moi, je peux pas venir à l'audition. J'ai un partiel, je sais pas quoi. Alors, il était vert. Et bon, et j'ai dû y aller quand même. Mais non, je réalisais pas du tout. Bon, au fur et à mesure des répétitions, et quand les spectacles ont approché, qu'on a vu comme c'était magnifique et magique, là on a commencé tous à prendre conscience que ça allait être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais avant ça, honnêtement, j'avais aucune idée de là où j'allais. C'était vraiment juste du plaisir et des voyages, et c'était sympa. Et bon, quand il fallait revenir de New York et aller directement à la fac pour passer un partiel, là c'était moyen, mais ça valait la peine, et j'étais ravie. Il n'y avait aucun plan de carrière à ce moment-là. Non. Bon, maintenant non plus, en fait, je vais un peu là où...
Ce que j'allais vous demander, finalement, en fait, vous allez un peu... Il y a eu d'autres rencontres après, que ce soit Gérard Lenne, Malgoire, etc.
J'ai eu la chance de chanter un peu avec tous ces gens-là, ce qui n'était pas le cas de toutes les chanteuses à l'époque. D'abord, on était très peu nombreuses. Maintenant, il y a beaucoup plus de concurrence, c'est beaucoup plus difficile. Mais j'avais la chance d'être un peu dans toutes les écuries à la fois, et j'ai pu faire tous ces enregistrements. Maintenant, le vent me mène ailleurs, et je fais confiance à mon instinct et à ma voix, et jusqu'à maintenant je me suis pas trop trompée, pourvu que ça dure. Mais je suis pas du tout du genre à dire un jour je chanterai ça à tel endroit.
J'imagine qu'il y a quand même eu un moment où, d'une certaine manière, parce que la façon dont on mémorise cette période Christie, Hâtis, etc., il y a le côté embarqué dans une aventure incroyable où on accepte finalement plein de choses, sans obligatoirement faire des choses contre nature. Mais est-ce qu'il y a quand même eu un moment où vous avez vraiment repris, j'allais dire, un peu les rênes en main de vos choix, c'est-à-dire d'être consciente d'avoir quelque chose à dire. Enfin, chanter en l'espèce, mais chose de...
Ouais.
Mais
bien sûr, surtout quand William Christie a commencé à me proposer beaucoup plus de solos, en fait. Tant qu'on était choriste, là, on suivait un peu le mouvement, mais quand j'avais des tout petits solos, des moyens solos, des plus grands, et après des grands, là, c'est là où on réalise que vraiment, on a quelque chose à dire, qu'on est peut-être un peu différent des autres, qui sont restés dans le cœur, et qu'on vous fait confiance, et que c'est le moment d'y aller. Oui, effectivement, ça, c'était avec Bill, et c'est venu très vite, en fait.
Le choc, enfin pas le choc, mais j'allais dire la rencontre avec Mozart un peu après, qui est ensuite devenu quasi... j'allais dire, dans vos premières années d'apprentissage, et même quand vous étiez au début avec William Christie, la musique de Mozart, c'était quoi pour vous exactement?
C'était absolument inabordable, et c'était même pas la peine d'y penser. J'étais dans ma musique baroque, la musique baroque française, j'aimais ça, je faisais que ça, avec les uns, avec les autres, on découvrait de la nouvelle musique, et non, Mozart, c'était pas pour moi, c'était pour les grandes chanteuses et tout ça, et c'est vrai que quand Malgoire m'a proposé ce chérubin, j'ai dit tout de suite, non, mais ça va pas, tu es fou, je suis incapable de faire ça, mais si, fais-moi confiance, essaye, tu vas être très bien, voilà, et ça a été horrible, j'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie que quand j'ai fait ce chérubin, la première fois avec lui à Tourcoing, j'étais tellement mal à l'aise, c'était vraiment terrible, quoi, bon, et heureusement, il était là, il était très chaleureux, très paternel, très, très confiant, et ça m'a beaucoup porté, beaucoup aidé, mais les deux premiers spectacles, c'était vraiment horrible, tellement j'étais pas vocalement, je pense que j'étais pas mal à l'aise vocalement parce que j'étais capable de le faire, mais c'était juste physiquement, tout d'un coup avoir un vrai rôle dans un vrai opéra connu avec des gens connus qui chantaient avec moi, et tout d'un coup c'était très dur à assumer, là c'était waouh, la grande baffe dans la figure là.
Et quand progressivement cette étiquette de mozartienne est arrivée, comment vous revoyez rétrospectivement les premières années? Vous aviez l'impression finalement de ne pas avoir vraiment été vous-même? Comment ça... juste une partie de...
Non, j'avais envie, parce que je sentais que c'était ça qu'il fallait pour ma voix. Je sentais que j'avais besoin d'une ouverture, si je puis dire. Je sentais que j'avais trop chanté cette musique baroque française, que j'avais besoin d'autre chose, que ça devenait moins sain pour ma voix, que j'avais besoin de chanter, tout simplement de chanter. Tout est relatif, vous savez, quand on chante que de la musique baroque, tout d'un coup, Mozart, c'est la liberté. Et quand on chante Mozart, quand on se retrouve avec Verdi, voilà, tout est relatif, hein, vraiment... Mais je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Et tous ces rôles mozartiens, la comtesse, Donna Elvira, Vitellia, Fordi Ligi, ça me paraissait complètement, complètement dingue, quoi. Et puis voilà, et je m'y suis faite et je les ai chantées. Et tout d'un coup, il y a un confort qui s'est installé. Pas une facilité, non, parce que c'était pas facile. Mais un confort qui me disait, une petite voix qui me disait, vas-y, c'est par là que tu dois aller, quoi. C'était confortable, voilà.
Oh!
Comment c'est dans votre éducation musicale et tout au long de votre carrière, comment vous avez évolué avec les enregistrements historiques, du passé, etc. Est-ce que pendant vos études, vous aviez tendance à énormément écouter les enregistrements historiques, les grandes voix d'autrefois ou même de présent ou pas spécialement? Vous avez eu des phases? Comment ça s'est...
Oui, non, moi, ça m'angoisse un peu d'écouter les autres parce que je trouve qu'ils chantent tellement mieux que moi que, en fait, j'essaye de pas trop écouter. Bon, évidemment, des Callas, des Margaret Price, des... J'aime toujours beaucoup, beaucoup Kirite Kanawa, et je pense qu'on a un peu le même type de voix. Ça guide un peu pour le répertoire. Et Jeanne Crespin aussi, elle avait une voix un peu comme la mienne, un peu... Voilà, j'ai écouté des femmes comme ça parce qu'elles me semblaient proches de ma voix, des Callas, des gens mythiques comme ça, bien sûr qu'on les écoute, parce qu'on apprend toujours en écoutant, mais encore une fois... ça m'angoisse donc d'écouter les autres. C'est tellement mieux que moi que j'évite, quoi. En tout cas, dans les choses que je chante, moi, quand c'est d'un répertoire qui n'a rien à voir avec le mien, oui, là, j'apprécie beaucoup. Mais je suis une grande angoissée, en fait, et il m'en faut pas beaucoup.
Alors, oui, donc, comme on l'a dit, Don Giovanni revient l'année prochaine, ouais. Encore.
Mes débuts à l'Opéra de Paris.
Voilà.
Voilà, tout arrive.
Revenir à des rôles comme ça qu'on joue, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, donc une partition qu'on connaît, etc. Mais évidemment, à chaque fois, sur une nouvelle production, donc avec évidemment des complices autres, c'est quelque chose que vous appréhendez de quelle manière? Ça dépend de la production, ça dépend du moment, à quel moment ça arrive dans votre... En même temps, c'est un retour à chaque fois, puisque c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est un habit que vous...
C'est une drôle de situation à chaque fois, parce que c'est la rentrée à chaque fois, quoi, parce qu'on ne sait jamais ce qui vous attend, quoi. Quelle sauce on va être mangé, quand c'est une nouvelle production. C'est vrai que j'en ai fait quand même une bonne centaine maintenant de Don Giovanni, et dans tous les styles, hein, vraiment dans tous les styles, des extrêmes, autant dans un sens que dans l'autre. Et... Bon, cette production, je l'ai vue, j'ai vu des photos, on en a parlé beaucoup, cette production de l'Opéra de Paris dont vous parlez. Je sais un peu à quoi je m'attends, mais... et là, en l'occurrence, je connais pas mal d'autres chanteurs, donc c'est plutôt rassurant, mais c'est à chaque fois une nouvelle aventure qui commence, et c'est à chaque fois... On se nourrit de toutes ces productions qu'on a faites avant. Dona Elvira, on m'a fait jouer des choses différentes, des hystériques, des femmes blessées, des... Voilà, et maintenant, j'ai un peu mon idée du personnage, et je sais un peu comment j'ai envie de la jouer. Alors, est-ce qu'on va m'imposer de faire ci ou ça? J'en sais rien. Mais maintenant que je suis un peu grande et que j'ai un peu des idées à moi, j'ai envie aussi de montrer comment moi, en tant que Véronique Jean, je fais Elvire et pas comme le faisait la nana qui chantait dans la production avant, quoi. C'est ça qui est toujours très difficile, c'est quand un metteur en scène, quand il a fait une création, il a toujours envie de retrouver un peu les mêmes personnages. Mais non, quand on change de chanteuse, forcément, ça sera différent. Et je me souviens d'une fois où j'ai fait une Clémence de Titus, et la fille qui chantait Vitellia, elle était petite, elle était blonde, elle était rien à voir avec moi. Et le gars me disait, regarde la vidéo, il faut que tu fasses exactement comme elle. C'était absolument impossible. Je suis grande, j'ai des grands bras, des grands membres, elle était toute menue, toute... Voilà, donc il faut... Ça, c'est un travail qui n'est pas toujours facile pour les metteurs en scène, mais au contraire, qui est très enrichissant pour certains autres. C'est s'adapter aussi aux chanteurs qu'on a en face de soi. Et moi, je vais essayer, évidemment, d'aller dans sa direction, mais tout en gardant ma propre identité.
Alors vous avez prononcé le mot « j'ai envie » en parlant de Giovanni. Vous avez envie de quoi d'autre, sinon, en termes de répertoire?
J'ai envie de beaucoup de choses. J'ai envie de probablement beaucoup de choses que j'imagine même pas encore, mais j'ai envie de m'aventurer vers des choses. Là, je sens que ma voix...
Wagner.
Oui, j'étais très heureuse quand j'ai censé ce Wagner.
Il n'y a pas très longtemps, vous avez...
Voilà, et c'était incroyable. Bon, jamais j'aurais imaginé un jour chanter Wagner.
C'est l'étape suivante, après la mozartienne qui se construit.
Mais quand j'étais baroqueuse, enfin j'aime pas ce mot, mais quand je chantais que du Lully et du Rameau, chanter la Comtesse, c'était complètement dingue pour moi. Voilà, encore une fois, les choses sont relatives. Chanter Eva, c'était absolument inaccessible, et je l'ai fait, et ça s'est bien passé. Et j'ai envie de le refaire, et d'autres choses peut-être. Sûrement pas des grands, des Isoles, des Valkyries, des trucs comme ça. Enfin, il faut toute proportion garder, il faut savoir vraiment... Il n'y a pas beaucoup de Wagner que je peux chanter, non, sûrement pas, peut-être une Elisabeth, peut-être, voilà. Et encore, ça dépend de l'orchestre, ça dépend du chef. Mais bon, c'est pas une obsession non plus, hein. J'ai envie de chanter du Strauss, j'ai envie de chanter du Verdi, j'ai envie de chanter des choses qui... Je suis pas kamikaze, Ouais, j'ai envie de faire des choses que je peux faire, tout simplement, et prendre du plaisir à les faire, et... J'ai envie de chanter encore quelques années, donc je ne vais pas chanter Traviata demain. Non, je ne crois pas. Voilà, mais Mais pourquoi pas, si on m'offre des opportunités, me lancer et faire d'autres choses. Oui, j'ai envie. J'ai pas envie de tourner en rond toute ma vie, quoi. C'est voilà. Mais Mozart. Oui, Mozart, toujours Mozart, ça c'est sûr.
En termes de collaboration, est-ce qu'il y a des chefs, même des metteurs en scène, pourquoi pas, avec lesquels vous aimeriez travailler?
Oui, j'ai beaucoup aimé chanter évidemment avec Claudio Abbado, j'ai beaucoup aimé chanter avec Thomas Engelbrock, j'aime beaucoup chanter avec Christophe Rousset.
Mais est-ce qu'il y en a avec, justement, que vous n'avez pas travaillé encore, vous
aimeriez peut-être? Oui, bien sûr, j'ai très envie de chanter avec Simon Rattle, j'ai très envie, voilà, la liste pourrait être longue et je veux vexer personne. Mais, et pareil pour les metteurs en scène, par contre, je sais très bien ceux avec qui je ne veux plus travailler. Ça, c'est la liste est beaucoup plus courte, mais elle est très claire dans ma tête, autant pour les metteurs en scène que pour les chefs, ça c'est clair et précis.
Ils le savent?
Oui, je pense, parce qu'en général, c'est assez réciproque. Mais voilà, là, ceux-là, je sais très bien. Les autres, je ne sais pas encore. On verra ce qui arrivera. Mais, je suis prête à essayer beaucoup de choses.
Vous avez chanté Purcell aussi, je crois.
Oui.
En novembre.
À Pléiel, avec Hervé Niquet. J'adore Hervé. Et on se connaît bien, là, pour le coup, on se connaît très bien depuis Atis aussi. Depuis, on a fait beaucoup d'enregistrements, beaucoup de choses. Et j'apprécie beaucoup Hervé. Il est tellement musicien, tellement cultivé, il connaît tellement de choses que je connais pas, et c'est vraiment toujours un plaisir de chanter avec lui. Il est drôle, il est positif, il est vraiment, c'est un grand chef et il mérite de faire beaucoup de choses aussi, je crois.
Quand vous n'en faites pas, est-ce que vous en écoutez de la musique? Est-ce que
non,
pas tant que ça.
Non, parce que je peux pas m'empêcher d'analyser, de décortiquer et tout.
Ou autre, peut-être des musiques justement, voilà, loin de celles que vous faites, pour justement ne pas.
Voilà,
avoir...
moi, ma fille est très branchée. Lady Gaga, Katy Perry, voilà, ce genre de répertoire. Et c'est vrai que là, quand j'écoute ça me.
Vous n'avez pas besoin d'analyser.
Non, là, j'analyse plus. Je
bougez la tête et puis.
Voilà, c'est ça. Non, mais je pense qu'il faut pas. C'est pas parce qu'on est chanteuse classique qu'il faut écouter que ça. Mon fils est très branché Michael Jackson aussi, là, tout d'un coup. C'est, voilà, mais ça fait du bien d'écouter des choses différentes et il faut sortir de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de changer de... Voilà, je ne suis pas qu'une chanteuse, je suis une mère de famille, je suis... Et j'ai besoin de trouver un équilibre en faisant autre chose. Sinon je deviens folle et j'apprécie plus ce que je fais. Donc ça, c'est,
est-ce que ça veut dire que parfois, il y a comme une sorte de pression, d'une certaine manière, par rapport à ça, même par rapport à la... On en parlait tout à l'heure, à ce qu'exigent effectivement ces rôles physiquement, en investissement, etc., par rapport à avoir une vie comme monsieur et madame tout le monde,
d'une certaine manière. Bien sûr, déjà quand vous partez pendant deux mois à Barcelone ou à Vienne, déjà vous n'êtes pas comme tout le monde. Après, j'essaye toujours de garder des plages où je peux juste aller chercher mes enfants à l'école, passer du temps dans ma maison avec mon mari. Voilà, j'ai besoin, je sais qu'il y a beaucoup de chanteuses qui ont besoin, elles, d'être sur scène tout le temps, d'enchaîner les trucs. Non, ça, c'est pas moi du tout. Au contraire, moi, j'ai besoin d'un sas entre les productions, sinon. Sinon, je deviens folle, j'en ai marre, j'ai plus envie de chanter et je fais tout à reculons. Déjà, 2-3 productions par an, c'est beaucoup. J'ai besoin d'air, tout simplement.
Dans les projets, au disque ou sur scène, donc on a parlé de Don Giovanni, d'autres choses qui doivent arriver prochainement?
Oui, il y a beaucoup de Mozart, toujours. Il y a cette reprise à Barcelone de Martini Soler avec Irina Brook. Il y a des choses à mes débuts à l'Opéra de Vienne aussi. J'ai chanté à Vienne déjà, mais au théâtre An der Wien. Il y a un autre Don Juan à Covent Garden. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans l'avenir. Mais des choses où, avec des gens que j'aime, des endroits que j'aime, avec des endroits confortables, si je puis dire. Enfin, j'ai la chance de pouvoir choisir et j'ai vraiment envie d'apprécier et de faire des choses qui me font plaisir maintenant. Oui.
Bon, ben bonne chance pour ces choses qui vous font plaisir. Merci Véronique Jans.
Merci beaucoup à vous. Quel Führer barbare. Et qu'ai-je à craindre que la mort de mon amant. M'ont rendu ma fermeté. L'amour armé pour ma défense saura confondre ton orgueil.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.